Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour Bruno.
Salut Laura.
Aujourd'hui, on accueille Amélie Belin du Musée Fabre. Bonjour Amélie.
Bonjour Laura.
Bienvenue chez Divergence en Terrain Vague.
Merci.
Alors aujourd'hui, on va parler notamment du partenariat entre Line-Up et le Musée Fabre avec qui on organise les visites guidées street art qu'on appelle Ex et In Situ. Dans un premier temps, on va parler un petit peu du musée et de toi Amélie. Quel est ton rôle au musée? Puis présente-nous un petit peu le musée dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas encore cette grande institution du Musée Fabre.
Donc moi, je suis chargée des publics, tourisme et adultes au Musée Fabre au sein du service des publics du Musée Fabre. Donc c'est un service qui comprend plusieurs secteurs et moi particulièrement, je m'occupe de programmer les visites guidées pour les adultes, les conférences, la programmation événementielle aussi. Et on a donc un musée des Beaux-Arts qui part du XIVe siècle jusqu'au XXIe siècle, puisqu'on a des artistes très anciens, des panneaux de bois, des flamands et hollandais. On a aussi une belle collection XVIIe siècle avec des œuvres français évidemment, mais aussi italiennes, puisqu'on a une forte collection italienne qui est due à François-Xavier Fabre, notamment, qui est le fondateur du musée Fabre, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et après, on a donc des œuvres du XXe siècle et du XXIe siècle avec des donations d'artistes toujours vivants. Et notamment Pierre Soulages, une belle partie de notre collection consacrée à cet artiste qui est décédé il y a peu.
Ça, c'est pour du coup la collection permanente du musée. Et après, régulièrement, vous avez les expositions temporaires, comme en ce moment avec, je me souviens plus de son nom, Germaine Richier.
Tout à fait.
C'est ça.
Donc, on a deux fois par an de grosses expositions qui sont sur un plateau d'exposition dédié. Et on a aussi, au fil des collections, des accrochages qui mettent en valeur des artistes qui sont au sein de la collection ou des donations qui n'ont pas eu encore l'occasion d'être montrées. Donc, ça met en valeur le parcours. Mais donc, ces grandes expositions, comme celle actuelle de Germaine Richier, qui court jusqu'au 5 novembre, permet de mettre en valeur des artistes qui sont souvent liés au territoire, comme Germaine Richier, qui a vécu longtemps à Castelnau-le-Lez, qui a fait l'École des Beaux-Arts à Montpellier. Donc ça, c'est quand même une mise en valeur d'une femme aussi.
Tout à fait.
C'est important.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Une femme sculpteur, ça, c'est quelque chose qui n'était pas encore fait. Donc...
Une très belle expo que j'encourage nos auditeurs à aller voir.
Tout à fait. Et en plus, on aura bientôt, peut-être, si ça fonctionne, la belle spirale sur l'esplanade.
Donc, exactement, c'est vrai. L'œuvre d'art, une fois que les travaux seront finis,
c'est
j'imagine.
Ça, les travaux, et puis il y a une souscription participative qui est proposée pour la fonte de ce bronze.
Donc on peut participer si on en a envie.
Exactement.
Je vous invite à vous rapprocher du musée, justement, pour savoir comment ça fonctionne. Petite question pour ma curiosité personnelle, mais peut-être pour celle d'autres. La collection permanente du musée, est-ce qu'il y a, par exemple, des œuvres qui sont stockées et qui n'ont pas encore été accrochées au profit d'autres? Est-ce que des fois, ça tourne un petit peu?
Oui, tout à fait. C'est aussi le but de ces petits accrochages au fil des collections. C'est parfois de mettre en valeur des œuvres qui sont en réserve depuis un moment ou alors qui ont été données, où on n'a pas l'occasion tout de suite de les mettre en avant. Et régulièrement, quasiment toutes les semaines, on a des changements puisqu'il y a des départs d'œuvres en prêt pour d'autres musées, d'autres expos. Et du coup, on les remplace par nos œuvres qui sont en réserve et il y a quand même une belle partie aussi en réserve puisqu'on commence à être un peu à l'étroit finalement au musée.
Et oui, il a beau être grand, il y a quand même beaucoup d'œuvres du coup et ça tourne bien. Donc c'est bien parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à voir finalement.
Et puis on va entamer des travaux bientôt pour agrandir le musée.
Oh,
Oui.
Ah, oh, je ne savais pas. Ça, c'est chouette.
Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de montrer justement plus d'œuvres qui appartiennent aux collections et qui ne sont pas encore montrées.
Pas encore visibles. Oui. Très bonne nouvelle. C'est pour quand ces travaux ?
Le début, on va commencer par des fouilles archéologiques sous la Porte Buren.
Wow.
Et ensuite, voilà, il y aura des travaux de creusement de la cour devant le musée pour créer un nouvel espace d'exposition.
Devant le musée. Tout à fait. Génial.
Oui.
Trop bien. Alors du coup, on va arriver à ce fameux partenariat entre Line-Up et le musée, donc qui a été initié par Line-Up.
Oui, tout à fait.
Donc c'est la guide qui avait à l'époque, qui s'appelle Lodi, qui animait les visites déjà street art du quartier Méditerranée, qui a fait ce pas vers vous, vers le musée, pour proposer un parcours, en fait, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, Lodi, elle avait une approche très histoire de l'art par ses études, et du coup, elle s'est dit, tiens, ça serait intéressant. Elle m'a contactée pour qu'on mène cette idée de partenariat et de visite couplée entre le musée Fabre et la rue, pour la faire découvrir. C'est une idée qui m'a paru très riche. Moi, j'ai une affinité particulière pour le street art, donc je me suis dit que c'était en effet une très bonne idée et qu'il y avait sûrement des ponts à faire pour montrer aux gens finalement que ces artistes ne sortent pas de nulle part et tout d'un coup, on ne devient pas artiste.
Exactement,
en fait.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc ça m'a permis de développer au musée des ponts à faire importants avec les street artistes. Et les graffeurs.
Et les graffeurs, exactement.
Tout à fait.
Et est-ce que tu penses que via ces visites, on touche des publics un peu différents ou c'est quand même déjà des publics qui sont sensibilisés aux lieux de culture de manière générale ?
Alors, on a quand même la chance d'avoir un panel plus large, je trouve.
Ok.
Bon, d'une part, il y a des gens curieux qui sont peut-être déjà des gens qui viennent au musée, mais le street art ne leur parle pas du tout. Mm-hmm. Et du coup, c'est un moyen de les faire venir pour découvrir.
Oui.
Et d'autre part, on a des jeunes, par exemple, de quartier ou d'étudiants qu'on n'a pas du tout d'habitude au musée et qui viennent par ce biais-là pour voir finalement...
Comment s'articule ces parallèles ?
Pourquoi il y a une visite qui commence au musée, en fait.
Ouais, qui finit dans la rue. C'est bizarre.
Tout à fait, c'est bizarre.
Okay.
Et ce côté un peu étonnant, décalé, ça les interroge et ils viennent aussi découvrir... Qu'est-ce que ça amène ?
Oui, puis le format, justement, dedans, dehors, c'est quand même assez, assez original, hein, je pense.
Oui,
pas.
C'est original. Puis il y a une déambulation dans la rue qui permet de, avant d'arriver au quartier Méditerranée aussi, qui permet de découvrir un peu sa ville aussi d'une autre manière.
Oui, tout à fait.
Et c'est intéressant
de mettre
tous les effets.
Oui, tout à fait. Donc ça fait quand même déjà plusieurs années que ce partenariat existe, on est ravis chez Line-Up.
Ben nous aussi, au musée.
Et du coup, on peut dire oui, que c'est quelque chose qui fonctionne, que le public est au rendez-vous finalement de ces visites.
Tout à fait, le public est au rendez-vous et la nouveauté depuis 2-3 ans, c'est aussi qu'on touche des scolaires maintenant sur ce parcours.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai, c'est intéressant puisque ça permet d'avoir des enfants encore plus jeunes. On a déjà eu une fois une maternelle quand même qui est venue faire ce parcours.
Je me souviens.
Donc c'est quand même intéressant dès le plus jeune âge de leur faire comprendre les liens qu'il y a entre des artistes du XVIIe siècle et puis des gens d'aujourd'hui.
Qui sont dans la rue. Et oui. Ça peut être un peu abstrait comme
c'est
ça sur le papier. Mais
et au final, ils comprennent mieux pourquoi, comment, quels sont les rapprochements qu'on peut faire.
Et est-ce qu'on a, parce que du coup, la richesse du quartier Méditerranée, c'est aussi d'avoir des œuvres nouvelles très fréquemment. Est-ce que tu remarques qu'il y a des personnes qui reviennent faire la visite justement parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être des nouvelles œuvres à voir quartier Méditerranée ou est-ce que ça peut arriver ça
Alors il y en a qui sont venus plusieurs fois en effet pour découvrir les nouveaux collages puisque c'est vrai que c'est ça qui tourne souvent le plus. Et en effet des gens qui reviennent et puis il y en a qui reviennent aussi selon le guide du musée, puisque tous les guides n'ont pas exactement le même parcours, donc même au sein du musée.
Donc c'est pas toujours les mêmes œuvres en fait au musée.
Non,
ça,
au musée
cool.
Ça change aussi un peu, et bien sûr dans le quartier
Méditerranée. Donc tout dépend du guide au musée, Donc ça c'est plutôt cool parce que ça peut faire une nouvelle visite un peu à chaque fois, étant donné qu'il ne va pas faire les mêmes œuvres, et qu'au quartier Méditerranée ça bouge tout le temps. Donc, c'est bien, il faut la faire plusieurs fois. Et quel parallèle on peut observer entre les œuvres présentées au musée et celles du quartier Méditerranée ?
Finalement, on se rend compte que déjà au XVIIe siècle, il y a des toiles.
Ah, déjà. Ah ouais ? Chaud quand même.
Oui, j'avoue. Hein. Il y a des artistes qui ont repeint sur d'autres artistes. Donc par exemple, une œuvre du XVIIe de Gaspard Duguay, le beau-fils de Nicolas Poussin, qui a été acheté par un collectionneur. Il a trouvé pas tout à fait à son goût. Il a demandé à un autre artiste d'intervenir pour ajouter des personnages.
Mais non.
On voit qu'il y a comme ça une évolution dans la toile.
Excellent.
Et ça montre un peu une sorte de parallèle où des artistes n'hésitaient pas à revenir sur un travail qui ne leur appartient pas.
D'accord. Donc oui, le parallèle tout fait avec l'art urbain où effectivement, quand on fait un collage, y en a qui viennent mettre leur petit collage par-dessus qui viennent taguer ou qui viennent l'enlever pour faire autre chose. Donc oui.
Donc là, il y a tout de suite un parallèle.
Ah ouais, tout trouvé.
Tout trouvé. L'autre parallèle qu'on peut faire facilement, c'est aussi le travail en atelier, on dit à l'époque. Mm-hmm. Mais en street art, c'est le crew, finalement, ce travail communautaire,
en groupe.
Donc ça, c'est aussi important. Et souvent, on le voit sur vos posts ou autres, les collages, ils sont rarement tout seuls, parce qu'il faut quand même tenir le collage et l'encoller.
Exactement, tout à fait. Quand on voit Mara qui part coller, il est rarement seul.
Voilà.
Il part souvent avec Noluck, et des fois, c'est avec Noluck et Kuro. Donc voilà, c'est la joyeuse bande.
Là aussi, il y a ce travail d'atelier qui permet de comprendre que, voilà, on peint rarement tout seul, au final. Selon les époques.
Ouais.
Donc ça, c'est aussi important et ça permet de faire un rapprochement. On évoque aussi le travail un peu des pochoirs, puisqu'on a des artistes qui sont aussi finalement un peu comme des pochoiristes. Mm-hmm. Des artistes plus contemporains comme Viala, qui fait aussi ce travail de pochoirs. Mais on a des artistes plus anciens qui prenaient une toile et ensuite elle était transposée en broderie. Et finalement, le travail de la toile, ça reste une sorte de travail préalable, comme tout ce travail de pochoir prend parfois des heures.
Tout à fait.
Tout à fait.
Si on prend un des pochoirs, le pochoir de Hose qui est au quartier méditerranéen, qui a pris, je crois, plus de 200 heures ou quelque chose comme ça de découpage, c'est assez hallucinant. Mais après, quand on se rapproche et qu'on voit le nombre de détails.
C'est ça, la finesse des petits creux, des zones en plein, on se dit, mais oui, il a passé des heures au scalpel.
Exactement, à découper, voilà, pour après venir le mettre sur un mur. Et le travail de réalisation derrière, il est hyper rapide par rapport à ce que ça a pris en amont en préparation.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu trouves qu'il y a un attrait pour cette visite du fait justement que ce soit qu'on puisse observer des œuvres à l'intérieur, qu'on puisse aller voir des œuvres à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un petit engouement qui s'est créé autour de cette visite-là en particulier auprès du public?
Alors oui, il y a un engouement parce que du coup, on n'est pas statique à piétiner en permanence au même endroit. Ouais. Finalement, c'est assez dynamique, on permet de découvrir quelques œuvres du musée. On sort sur le trajet, on voit des graffitis un peu emblématiques comme Zoka par exemple sur la place de la Comédie avant d'arriver au quartier.
Oui, ça permet d'aborder un peu le sujet.
Ça permet de donner un petit préambule et ensuite on arrive au cœur du quartier méditerranéen et là il y a énormément d'œuvres différentes sur les supports mais aussi sur la façon de faire, les matériaux, etc. Mm-hmm. Donc ça apporte une richesse en fait pour les gens et ça, voilà, c'est moins conventionnel en fait comme type de visite.
Et comment ça se passe une visite justement dans ce quartier méditerranéen? Est-ce qu'il y a une explication? Parce qu'on se dit, vu qu'il n'y a pas le passé que peuvent avoir les toiles au musée Fabre, comment un guide peut dire, là c'est tel artiste, mais est-ce qu'il rajoute un petit peu sa patte? Est-ce qu'il y a des explications justement sur ce que le visiteur pourra voir dans la rue?
Oui, alors il faut quand même préciser que ce n'est pas le guide du musée qui fait la partie du quartier méditerranéen.
Non, c'est le guide de line-up, parce que du coup, c'est une visite qui est organisée à deux voies.
C'est ça.
Donc pour la partie musée, il y a un guide du musée. Et pour la partie quartier méditerranéen, on a Nina qui anime la visite du street art du coup, mais qui suit, les deux guides sont ensemble du début à la fin de la visite guidée.
Voilà, donc on amène des contrepoints. Et en effet, dans le quartier méditerranéen, il y a toujours quelque chose à dire. En effet, on regarde, on voit, mais il y a la technique, comment il a réalisé son œuvre, les éléments parfois d'inspiration, puisqu'on voit Adek, qui est quand même assez inspiré du cubisme, d'artistes plus classiques, Braque. On voit tout à fait ce travail-là. Il y a donc finalement les influences qu'on peut observer, mais il y a aussi une histoire particulière sur certains collages, comme tout le parcours qui avait été fait pour un couple qui s'est demandé en mariage,
oui,
dans le quartier.
Oui, enfin,
il y a tout ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a le background qui est expliqué, c'est et c'est ça qui est aussi très intéressant.
Et puis tous les anecdotes qu'il y a autour. Enfin, je sais que Nina, bah, qui est en plus habitante du quartier Méditerranée et qui voit les œuvres se faire pratiquement en direct, hein, bah, elle a toujours des anecdotes sur une nouvelle œuvre qui est apparue ou justement bah, sur cette histoire de demande en mariage. Donc ça participe à donner un peu de plus de vie à cette visite guidée. Bah forcément, tout de suite, quand tu as des histoires racontées, ben l'artiste, il est venu, il a collé, mais en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui est venu, je sais pas quoi. Enfin, tout de suite, ça prend une dimension différente. Et puis, les gens ont plus de facilité à comprendre, à se projeter un peu dans le moment.
Oui, tout à fait. Et puis, même pour les œuvres de locaux, si on ne sait pas qu'il a vécu dans la rue, on ne comprend pas tellement l'implantation sur les poubelles. Et c'est quand vrai. On comprend un peu la biographie de l'artiste, on se dit « Ah oui, en effet, il y a un lien, c'est normal. » Enfin, ce n'est pas normal, mais en tout cas, on intègre mieux le fait que ce soit son support
de prédilection. C'est ça, c'est sûr. Avant de passer à la suite, je vous invite à... Allez-vous vous inscrire à la prochaine visite qui sera le 2 décembre. C'est auprès du musée Fabre. Je vais vous donner l'horaire tout de suite. C'est de 14h à 16h. On va arriver à la partie pratique, puisque depuis peu, le musée Fabre nous a proposé d'animer des ateliers d'initiation.
Oui.
Donc on en a mené deux, un fin avril avec l'artiste Mara qu'on a reçu en terrain vague, un autre avec Salamèche qui en a animé un cet été, et là on en a un autre qui arrive fin octobre, toujours avec Salamèche, du coup ma destination des étudiants cette fois. Ouais. Donc ces ateliers, c'était un petit peu sur le modèle de ce qu'on fait nous pendant les vacances, c'est-à-dire que le matin c'était à destination des enfants à partir de 7 ans je crois, et l'après-midi pour les ados. Et c'est dans une salle, une superbe salle du musée que j'ai découvert quand j'ai visité, qui est une salle super que tout artiste aimerait avoir pour travailler. Ouais. Tu nous expliques un peu comment est venu... Enfin, il y a déjà des artistes qui interviennent au musée dans le cadre d'ateliers comme ça?
Tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir au service des publics deux plasticiens qui mènent des ateliers, on va dire, pour le service des publics du musée Fabre, donc à destination des scolaires. Et puis, pour toutes les vacances, ils font des propositions. Mais c'est vrai qu'on avait envie de diversifier l'approche et pour proposer au public cet aspect un peu street art qu'on n'a pas encore vraiment au musée. Donc l'idée, c'était de faire des invitations pour occuper nos ateliers, qui sont en effet des ateliers, un espace dédié avec du matériel et qui permet d'avoir toute l'aisance pour mener un atelier avec un groupe de 10 personnes sans problème.
C'est ça, c'est de très grands ateliers. Enfin, c'est un espace vraiment, vraiment chouette pour pouvoir créer et accueillir du public. Quel est, toi, ton ressenti, ton retour en tout cas sur ces ateliers-là? Est-ce que le contenu a plu? Cette approche un peu différente qu'ont pu avoir les artistes Mara, Salamèche, différente des plasticiens qui œuvrent au musée. Qu'est-ce que ça a apporté de différent, de plus ou pas plus, ou juste de différent?
Ce qui est bien, c'est que ça renouvelle les propositions, c'est une approche un peu différente. Les gens, ils sont heureux et curieux de découvrir aussi d'autres personnalités. Et puis ce côté un peu secret des street artists, ça te fait toujours un peu...
Toujours. Découvrir les pratiques.
Découvrir des pratiques, mais aussi le personnage, puisqu'on connaît un pseudo, on ne connaît pas forcément la personne. Du coup, c'est toujours... il y en a très particulier. Les gens aiment bien découvrir sa façon de travailler.
J'avais pas pensé à ce côté effectivement un peu caché, parce que comme tu dis, on voit, les œuvres sont signées des fois quand c'est dans la rue, etc. On voit le nom, on le connaît sans le connaître, mais là on met un visage sur la personne. C'est vrai que ça doit plutôt être cool.
En tout cas pour les enfants, ça reste ce côté un peu énigmatique. Ah, c'est pas mal finalement, c'est lui qui fait ça, ok. Enfin, c'est une meilleure compréhension aussi de rencontrer la personne, évidemment. Et la démarche qu'ils ont, c'est hyper pédagogique. Du coup, pour les plus jeunes, ils accrochent tout de suite. Et pour les ados, ils se libèrent aussi. Ils font leur propre adaptation. Et ça, c'est aussi très riche et intéressant.
C'est vrai qu'en plus, je trouve que ce qui est cool, c'est que avec les styles de ces artistes, on s'enferme pas dans quelque chose. Enfin, on peut avoir le niveau qu'on a. Enfin, moi, de toute évidence, par exemple, qui est niveau zéro. Voilà, il y a zéro exigence. Et celui qui sait pas dessiner ou bon, on lui demande pas d'avoir des bases beaux-arts pour pouvoir s'y mettre. Donc
heureusement, sinon j'aurais pas pu partir.
Ben heureusement aussi, parce que moi je pourrais rien faire, hein, concrètement.
Autant je peux commenter les œuvres, autant je peux pas en faire, quoi. C'est clair. Mais du coup, c'est accessible à tous et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. Enfin, faut tenir un crayon, d'accord.
Oui,
mais
oui, oui.
Au moins.
Mais du coup, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut. Voilà, on a peut-être plus de liberté. Où on a la liberté de s'exprimer, de laisser parler sa créativité, son imagination. Quand on voit ce que font ces artistes-là, peut-être que ça peut paraître un peu plus accessible, ou est-ce que ça, ou en tout cas, ça peut peut-être donner l'impulsion à ceux qui ont peur de se lancer.
Oui, bah aussi. Oui, complètement, puisqu'on n'est pas forcément dans une représentation du réel qui paraît parfois inaccessible.
Tout à fait. Ouais.
Là, on est plus sur voilà des couleurs, des motifs. Donc ça, c'est vrai que ça semble plus aisé, et
oui.
On peut faire parler son imaginaire sans qu'on nous juge, finalement. Donc
exactement,
ça, c'est aussi ce qui permet de... Voilà, je pense qu'il remplit bien l'atelier, c'est que les gens voilà, n'ont pas de pression, quoi, en quelque sorte.
C'est ça. Donc le prochain atelier, c'est le 28 octobre avec Salamèche, mais celui-là, il est à la destination des étudiants.
Oui, tout à fait.
Donc rapprochez-vous du musée si vous souhaitez vous inscrire. On glisse tout doucement vers la dernière partie de cette émission. Quand est-ce que l'art urbain va intégrer le musée Fabre? vaste sujet, mes petites recherches m'ont mené, enfin voilà, m'ont fait découvrir que effectivement il y avait déjà des endroits, des lieux qui avaient été où des artistes du milieu urbain contemporain avaient été invités à créer des expos. C'est notamment le cas d'une expo au musée des Beaux-Arts de Calais qui s'appelait Conquête urbaine. Il y avait une soixantaine d'œuvres exposées et avec, enfin, on y a croisé quelques pionniers du coup du street art, du writing new-yorkais dont on a parlé il y a pas très très longtemps, comme Taki ou Dondi. Il y a eu d'autres artistes aussi dans cette expo-là. Est-ce que c'est une volonté maintenant des lieux culturels, institutionnels notamment, de s'ouvrir à ce courant d'art urbain contemporain et de le faire entrer dans ces murs, sans forcément parler du musée Fabre?
Oui, bien sûr.
C'est pas encore le sujet.
Non. Alors, au musée, on a quand même une certaine ouverture, parce qu'on avait fait un événement où Zest...
Pour les 100 ans de Soulages,
tout à fait. On avait fait une collaboration donc avec Franck Noto pour créer ça et faire participer le public, et c'était hyper riche. J'ai adoré mener cette expérience.
Oui, tu m'étonnes.
Mais c'est vrai que, après, tout dépend des conservateurs et de la ligne de conservation que veut donner le musée, puisque c'est aussi, évidemment, les conservateurs qui donnent des axes et essayent de renforcer les collections avec ce qu'on a déjà. Et c'est parfois un peu délicat d'aller vers la nouveauté, en tout cas, quand on est un musée des Beaux-Arts. C'est vrai que si on est un musée d'art contemporain, tout de suite, c'est plus aisé d'aller sur cette branche. Mais en effet, on voit que de plus en plus de musées ou d'institutions font appel à des street artistes et pour un petit peu renouveler leur image et aussi attirer de nouveaux publics. Et,
peut-être pour donner une place aussi
à toutes les formes de création.
Oui, voilà, c'est ça, parce que finalement, les œuvres de ces artistes-là, ben, on va les voir dans la rue, on les voit dans des galeries d'exposition.
Oui.
Vers lesquels le grand public n'ose pas forcément aller parce qu'il se dit, ben, si je vais en galerie, c'est peut-être forcément pour acheter une œuvre et pas pour voir une expo.
C'est vrai qu'il y a ce petit frein.
Oui, il y a ce petit frein, alors que bon, le galeriste sera ravi de vous accueillir, même si vous ne comptez pas acheter une œuvre. mais ouais, il y a peut-être aussi cette volonté de le rendre accessible à un peu plus de personnes en l'invitant dans un lieu d'art institutionnel, effectivement, et peut-être lui donner aussi la place, une place un peu plus légitime dans le paysage culturel.
Oui, tout à fait. Bon, on voit qu'il y a des collaborations assez importantes. Hein. Là, il y a l'Opéra Garnier avec JR qui fait un collage géant.
Tout à fait.
Il était intervenu au Louvre. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte un peu de starification de certains artistes.
C'est sûr, notamment JR. Qui sont mis vraiment en avant.
Tu
as cité le bon.
Oui, je sais bien.
Bah, qui vient de ce courant aussi, mais qui a trouvé le concept
qui fonctionne.
Voilà, c'est vrai que c'est... Via le collage, il en a fait quelque chose de grandiose et tout de suite qui fait le buzz. Enfin, voilà. J'ai vu l'œuvre à l'opéra. Et ce qui est beau, c'est en dehors de l'œuvre et d'avoir recouvert l'opéra, c'est l'interaction qu'il y a, puisque l'œuvre sert comme d'écran. Ils rediffusent des ballets en fait, et ça c'est magnifique.
Oui, c'est une façon aussi de toucher le public qui est dans la rue et lui faire découvrir autrement l'opéra. Enfin bon, c'est vraiment un mélange qui est intéressant et pour aussi montrer l'importance du collage et qu'est-ce qu'on peut en faire.
C'est la transversalité de ces médiums et comme tu dis, de toucher le plus grand nombre, parce que les personnes qui vont être dans la rue ou ne s'intéressent pas ou n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'opéra pour aller voir un ballet, et si l'occasion ne se présente pas, ils ont pu voir quelque chose qui est assez fou, puisque c'est cette espèce de tissu immense, tendu, qui a recouvert la façade de l'opéra et qui diffuse de nombreux ballets. Enfin, moi, je trouve l'idée géniale.
Oui, non, mais c'est vraiment hyper intéressant, et je pense que ce type de proposition, c'est vraiment ce qui fait aussi... un engouement particulier pour le street art, mais pour les lieux culturels, finalement.
C'est ça,
plus généralement.
On espère qu'un jour, peut-être, le musée Fabre va se dire « Bon, on va consacrer une expo à... »
Moi, j'espère aussi, mais je ne décide pas seule.
Et non. Tu parlais de la ligne de conservation,
tout
c'est
à
ça
fait, oui.
C'est la direction artistique, en gros.
C'est les conservateurs qui, dans... Nous, on en a 4 au musée. Mm-hmm. Donc, chacun a une zone définie en termes de courant artistique mm-hmm. et période. Et donc, il y a des axes... En effet, au musée, pour la période plus contemporaine, c'est Maud Maron Wojciechowski qui s'occupe de cette partie-là. Et elle a... au musée, on a quand même une grosse place. Pierre Soulages et ses contemporains, aussi Support Surface, qui est une grosse partie de notre collection. C'est vrai qu'on a une collection contemporaine, mais historique.
Oui.
Dans ce sens-là, plutôt. Et pour les artistes vraiment contemporains, on n'a pas encore énormément de...
On y vient quand même.
On y vient
petit à petit.
Petit à petit, mais c'est vrai que après c'est avec les possibilités du marché de l'art.
C'est ça. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle juste que la prochaine visite guidée, c'est le 2 décembre à 14h, donc rapprochez-vous du musée. Et que pour les étudiants qui nous écoutent, le 28 octobre, il y a le stage animé par Salamèche au musée. Rapprochez-vous également du musée Fabre. Merci beaucoup Amélie pour ton intervention.
Merci de ton invitation.
Merci Bruno. Et merci à tous pour nous avoir écoutés encore une fois. Et à très bientôt chez Divergence pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Ben regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffitis, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.